Couper le micro parce que là j'ai le retour en direct de ce que je dis.
Ça marche. Tu parles bien? Bon, allez, bisous papa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Sinon vous avez le si vous avez envie de dire quelque chose, vous pouvez le dire dans le chat. Et ce que j'aimerais apporter là aujourd'hui, c'est un message qui parle de la vie, trouver la vie. Et je pense que c'est un élément essentiel de la vie chrétienne. Un élément essentiel. Et même un élément qui est tellement important pour le discernement spirituel que ça fait partie des fondements de la vie du chrétien. Et on pourrait commencer à lire dans Jean au chapitre 1 et au verset 4, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quand Jésus est venu, c'est comme si une grande lumière était venue dans le cœur de l'homme. Et les gens qui étaient autour de lui, et particulièrement les disciples, ont vu quelque chose en Jésus qui était différent, qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Jésus est venu comme la lumière au milieu des ténèbres. Quand Jésus est venu et il a parlé, il avait quelque chose de différent des ténèbres dans lequel toute l'humanité vivait. Et c'est comme si les ténèbres du péché et de la déception envahissaient le monde, mais quand Jésus est venu, il est venu comme une lumière qui a effectivement éclairé les gens. Et les gens ont soit aimé la lumière et ils s'en sont rapprochés, soit ils l'ont haï et à ce moment-là ils s'en sont écartés. Et tout ça dépend de la façon dont leur cœur se penchait. Ceux qui ont aimé la justice, ceux qui ont aimé le bien, ont été immédiatement attirés par Jésus et sans même savoir pourquoi. Et ceux qui ont haï la lumière et aimé le péché ont été profondément rejetés de cette lumière parce qu'ils ont tout simplement haï la lumière. Donc quand Jésus est venu, la chose unique, spécifique qu'il avait à ce moment-là, c'est qu'il portait la lumière. Et qu'est-ce que c'était que cette lumière? Eh bien, le verset de Jean 1 au 4 nous dit, cette lumière, c'était la vie qu'il avait en lui. Il avait en lui une vie qui était différente de toutes les autres vies qui ont existé jusqu'auparavant. Même les prophètes qui sont venus dans le passé n'ont fait que témoigner de la lumière. Mais Jésus est venu comme la lumière. Et cette lumière qu'il avait, c'était la vie qu'il avait. Alors on a tous la vie, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais la vie de Jésus était différente. Jésus avait la vraie vie de Dieu en lui. Ce qui faisait que Dieu vivait était en lui. Et je n'ai pas trouvé d'autre moyen d'exprimer cela qu'en faisant une comparaison. L'herbe a la vie, mais c'est une vie différente de celle de l'être humain, vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelque chose de complètement différent. Le poisson a la vie, mais à nouveau, c'est une vie complètement différente. Les oiseaux ont la vie, mais c'est une vie complètement différente. La vie humaine est différente du poisson, la vie humaine est différente de l'oiseau, la vie humaine est différente de l'herbe. La vie humaine est différente de l'émeu et du kangourou, de qui que tu veux sur la terre, de qui que ce soit sur la terre. La vie humaine est différente. La vie humaine peut apprécier, elle peut voir, elle peut comprendre, elle peut connaître, elle peut désirer, elle peut vivre une vie spirituelle. Il y a tellement de choses en nous qui sont différentes de ce que les animaux, les arbres ou les poissons ou les oiseaux ou les herbes, les plantes elles-mêmes peuvent avoir. Nous avons tous la vie. Mais cette vie qui est en nous est temporaire. La vie des fleurs, la vie des plantes viennent et se terminent. Même la vie humaine vient et disparaît. Nous allons tous mourir. C'est pas gai. Mais en réalité, la vie de l'humanité tout entière n'est pas éternelle. Par contre, la vie de Dieu l'est. Et la substance réelle de la vie de Dieu lui-même est différente de la vie qui est en nous. Et quand Jésus est venu, il est venu avec quelque chose de différent de ce que nous avions. Il est venu avec la vie, une vie différente de la nôtre, une vie qui est éternelle par substance et par essence. Il est venu avec une vraie substance qui fait que Dieu est vivant. Que Dieu est vivant de manière éternelle. Et c'est ce qui fait que Jésus était différent. Et il y a une corrélation entre la vie et l'amour du Père. Parce que la vie de Dieu la vie qui est en Dieu est remplie de son amour. Et lorsque Jésus est venu, il est venu avec la vie de Dieu qui fait que Dieu est vivant et en même temps avec tout ce qui le caractérise, donc son amour. Aussi, quand les gens le voyaient et l'écoutaient, peut-être même le regardaient sourire, ils voyaient que Jésus avait quelque chose de plus. Quelque chose était en lui qu'il n'avait encore jamais vu auparavant. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, il voyait quelque chose en lui qui était différent. Il voyait la vie de Dieu. Il y avait quelque chose où, quelque part, quand les gens regardaient au fond de ses yeux, quand les gens regardaient cet homme, ils disaient, mais c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Et Jésus est venu nous révéler cette vie et nous la communiquer. Maintenant, aujourd'hui, il nous l'a communiqué. Et c'est pourquoi quand on est de nouveau et quand Jésus vient vivre en nous, à ce moment-là, on vit éternellement. Non parce qu'il nous a donné la vie éternelle, mais parce qu'il est devenu la vie éternelle pour nous. Il est devenu en nous cette vie éternelle. Et nous sommes morts et ressuscités en lui, parce que notre chair elle-même mourra, mais notre âme, notre esprit profite, reçoit, vit éternellement en nous. Et nous ne pourrons pas mourir. C'est l'assurance que nous avons. Jésus ne peut pas mourir. Je suis en lui, il est en moi. Aussi, je vais vivre éternellement. C'est ça la vie chrétienne. Alors, beaucoup de gens disent, est-ce que je peux perdre la vie chrétienne? J'ai rencontré tellement de fois cette question. Il nous faut être absolument et complètement convaincus que pour perdre la vie chrétienne, il faut que la personne rejette totalement de tout son être, de tout son cœur, Jésus, pour qu'elle puisse réussir effectivement à perdre la vie chrétienne. Il faut qu'elle le chasse verbalement de lui. Il faut qu'elle n'ait plus rien à voir à faire avec lui pour perdre la vie chrétienne. C'est pas comme si accidentellement on peut perdre la vie éternelle. N'importe qui vient à vous et vous dit cela, est-ce que j'ai perdu la vie éternelle? Est-ce que j'ai commis le péché qui permet de perdre la vie éternelle? Je pense qu'on peut immédiatement et avec assurance lui répondre non. Car le simple fait qu'il se pose la question, c'est qu'il se sent concerné. Et forcément, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne l'a pas rejeté. Il peut être travaillé, il peut être tout ce qu'on veut, mais il ne l'a pas rejeté. Quand les gens disent « Oh, je ne vais pas aller au ciel parce que j'ai fait telle ou telle bêtise », mais le simple fait d'être concerné par ce fait de partir au ciel ou d'avoir de partir au paradis, comme on dit, eh ben, fait que la personne elle a encore une conscience dans le sens qu'elle s'inquiète de ce que Dieu est pour nous et elle n'a pas de fait rejeté totalement Christ et la vie qu'il a mis en elle. On ne peut pas perdre la vie de Dieu par erreur. Il faut le vouloir. Il faut complètement le rejeter. Aussi, une personne qui a rejeté le Seigneur ne viendra jamais auprès de vous. Jamais elle va rechercher la présence d'un chrétien. C'est certainement le dernier endroit où elle désire être. Elle voudrait être sur une autre planète si c'était possible. Parce qu'elle se sent plus du tout concernée par le fait d'avoir perdu la vie éternelle. Elle est plus du tout concernée par cela parce qu'elle a désiré quitter la relation avec Dieu de tout son cœur, de tout son être et qu'elle l'a dit elle-même. Mais si la personne, et si nous, on se sent encore concernés par la vie éternelle, par le fait d'avoir une relation avec Dieu, c'est qu'on ne l'a pas perdue. Et cette vie que Dieu a, il nous l'a communiquée en Jésus-Christ. Et c'est un des grands points de la vie chrétienne, et je dirais même une des colonnes de la vie chrétienne. Parce que quelque part, cette vie éternelle, c'est ce que nous souhaitons tous ardemment. Et on peut avoir cette assurance parfaite que nous allons vivre pour l'éternité avec le Seigneur. Et que nous allons être dans sa présence pour le reste de l'éternité, que rien ne pourra nous séparer de cette vérité. Aussi, quand l'Écriture dit « En lui, il y a la vie, et cette vie est la lumière des hommes », il est le seul qui porte ce type de vie, cette vie éternelle à ce moment-là. Et on va lire ensemble quelques versets après, mais je pense que dans le mot « vie » que ces versets transportent, le mot « vie » est différent de la vie de l'être humain charnel. Il parle à ce moment-là bien de la vie et de la vie de Dieu, qui est quelque chose de spécial. Parce que la vie qui était en Jésus était la vraie substance de vie que ce que Dieu vivait. Ce qui fait que Dieu est vivant. Cette même vie était en Jésus. Et ce qui est en vous et le fait que vous viviez est la vie humaine et ne peut jamais être éternelle tant que ce n'est pas connecté avec la vie qui est éternelle. C'est pour cela que lorsque Dieu a poussé Adam et Ève hors du jardin, ils se sont retrouvés coupés de Dieu et coupés de ce qui amenait la vie. Et après la chute, il y a eu une durée à la vie humaine. La mort de du corps est devenue certaine, car la vie éternelle a été ôtée de l'homme et de Ève. Il semble que la vie dans le jardin était complètement différente. Elle était totale. Mais lorsqu'ils ont été coupés de cette vie, la vie humaine a diminué au fil du temps. Et au début, les gens vivaient près de 1000 ans, puis petit à petit, la mémoire génétique de cette connexion à Dieu s'est effacée, elle a disparu, et elle s'est réduite à près de 50 ans quand on était dans le Moyen-Âge. C'était à peu près ce que les gens pouvaient espérer vivre, même si aujourd'hui... La durée de vie a commencé à remonter. Mais quand la vie de Dieu vient, et ce que j'entends par la vie de Dieu, c'est ce qui fait que Dieu lui-même est vivant. Quand la vie de Dieu vient, à ce moment-là, nous sommes connectés à lui et nous recevons la même source de vie que celle qui était en Jésus. Et cette vie qu'il vivait, ce qui était en lui à ce moment-là, lorsque les gens le regardaient avec tout ce qu'elle transporte, avec la nature de Dieu elle-même, hein, l'amour et tout ça, lorsque les gens ont regardé à ses yeux, ils ont été prêts à se lever et à le suivre. Car après avoir vu, ils ont dit, c'est ça que je veux, plus que toute autre chose. Et vous vous rappelez certainement de quelqu'un qui l'a déjà fait, je ne peux pas vous questionner parce que vous êtes loin, mais... Matthieu a été de cela. Et Jésus est passé à côté de Matthieu, il était en train de faire le péager, c'est-à-dire qu'il recevait les taxes pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la ville. Jésus l'a regardé et il lui a dit, « Suis-moi. » Et je pense que Matthieu a vu quelque chose en Jésus qu'il n'avait vu nulle part ailleurs. Et il y a eu une réponse au cœur et à la vie de Jésus, une réponse à cette vie qui souhaitait être communiquée à lui. Et cette réponse était si forte que lorsque Jésus lui a dit « Suis-moi », Matthieu a suivi. Et pourtant, j'imagine que Matthieu a été complètement secoué. Imaginez, il n'avait pas prévu le matin, en se levant, de tout quitter. Il a fallu que cette chose qu'il a vue en Jésus soit vraiment extraordinaire. Et cette chose qu'il a vue, c'est l'amour et c'est la vie qui était en Dieu, qui était installée en Jésus-Christ et qui a été communiquée sur lui. Et là, maintenant, il la voit dans cet homme qui est Jésus, et il la voit comme une lumière brillante pour lui. Et tout ce qu'il a vécu, tout ce que Matthieu a pu vivre avant, toute sa vie de famille, tous ses amis, tout ce qui fait sa vie au moment où Jésus le croise à ce moment-là, tout ce qui est de sa relation avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ce que son employeur lui-même va pouvoir penser de lui, ce que ses collègues, ses amis vont pouvoir penser de lui, tout est passé devant ses yeux et en final, il a dit, je veux que cela soit plus important que tout le reste dans ma vie. Et il s'est levé pour suivre Jésus. Fallait que cette vie qui était en Jésus, cet amour qui était communiqué, cette nature même de Dieu qui était communiquée au travers de la vie qui était en Jésus et de ce qui était en lui, soit vraiment fort pour qu'il puisse le suivre. Pas amazing ça, hein? C'est pas étonnant, c'est pas extraordinaire. Tout cela parce que Jésus avait la vie de Dieu lui-même en lui. Et cette vie, c'est la vie du Père lui-même. Alors, on va pouvoir prendre un verset au chapitre 5 et au verset 26, et ce sont les mots de Jésus. Jean 5, 26 nous dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et là, on ne parle pas de la vie nature charnelle, on parle de la vie de Dieu. La vie du Père a été donnée à Jésus de Nazareth, le Fils humain de Marie. La vie de Dieu lui-même a été placée dans le Fils. Et c'est ce qui fait que Jésus était si différent. Tout le reste vient de cela. Le fait que la vie du Père était en lui. Sa relation de fils, son intimité avec le Père, le miraculeux, le surnaturel, les paroles de sagesse qu'il a, et tout le reste, l'amour qu'il peut communiquer, tout le reste, c'était parce qu'il avait la vie du Père en lui. Et cela a été donné en tant que fils, complètement humain, mais aussi complètement divin. Dans Jean chapitre 6 et au verset 63, il est écrit, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et c'est là que c'est important pour nous, qu'on peut comprendre que c'est important pour nous d'avoir du discernement. Je prends une petite tasse. Et vous allez rencontrer, et on rencontre, toutes sortes de gens qui parlent, qui disent des choses. Aujourd'hui, en plus, avec tous les réseaux sociaux, les moyens de communication qui existent, on peut entendre des tas de choses et des tas de gens qui croient des choses différentes. Et on peut même passer et traverser, et on va traverser toutes sortes de situations spirituelles ou non spirituelles ou supra-spirituelles, c'est-à-dire prétendant qui le sont, prétendant être spirituels mais qui ne le sont pas. Et vous allez traverser, nous allons traverser toutes sortes de situations, mais le point important du discernement est de savoir trouver où est la vie. Il faut découvrir où est la vie de Dieu, où elle est vraiment et dans quelle situation elle est. Si on ne sait pas discerner où est-ce que la vie de Dieu est, on ne saura pas se diriger. Il est important de discerner dans les situations et de discerner dans les gens que l'on croise ou ce qu'ils disent ou n'importe quoi, de savoir discerner que la vie de Dieu y est, où elle n'y est pas. Et si on n'arrive pas à discerner la vie de Dieu dans ce que les gens disent ou font ou les situations, c'est que la vie de Dieu n'est pas là. Et même si ça paraît intelligent ou si c'est convaincant ou si la théologie paraît jolie ou que les mots sont jolis, il ne faut pas nous donner à quoi que ce soit qui ne contient pas la vie de Dieu en lui. Cette vie trouve sa source de Dieu seulement. Alors il nous faut savoir regarder où est la vie, parce que c'est la base de tous les discernements. Et si on regarde à la vie, si on recherche la vie, et si on va là où il y a la vie, à ce moment-là, on ira là où Dieu est. Et c'est valable de maintenant jusqu'à la fin de l'humanité. Parce qu'on peut entendre des choses extrêmement convaincantes, avec de bonnes bases chrétiennes et parfois même scripturaires. Mais pourtant, au fond, il y a quelque chose qui ne nous va pas et qui va nous dire que ce n'est pas la lumière qui apporte la vie de Dieu. Mais c'est plutôt quelque chose comme de l'homme, c'est juste une ombre de la vie. Et il y a quelque chose qui manque là-dedans. Et ça, ce n'est pas la peine de le suivre. Il nous faut toujours rechercher à regarder à cette vie. Et ça sera révélé à chacun de nous de manière individuelle. Et pas forcément de manière collective. C'est cela que le verset est en train de nous dire. Et quand il nous dit que l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit, par lui-même, va vous dire tout ce que vous avez envie de savoir. Cela signifie qu'il y a une onction particulière qui a été déposée en vous, qui est capable de dire si l'enseignement vient de Dieu ou pas. Vous serez enseigné par l'Esprit de Dieu. Certaines personnes sont arrivées à dire avec erreur, « Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne, car le Saint-Esprit m'enseigne lui-même toute chose. » Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que Dieu a oint certaines personnes pour enseigner et qu'il y a un ministère d'enseignants dont nous avons tous besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose de faux dans ce verset? Si c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne effectivement, nous n'avons besoin de personne pour nous enseigner. C'est ce que certaines personnes disent. Mais Dieu a appelé et oint des enseignants bien spécifiques. Il semble donc que ces deux vérités se contredisent. Mais pas du tout. En fait, l'onction qui est en vous va vous montrer où est la vie et où elle n'est pas. Et c'est l'onction en vous qui va choisir et qui va prendre la vie. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc si on relit le verset avec une traduction qui vient plutôt de l'anglais, dans Jean au chapitre 6 et verset 63, il est écrit « C'est l'Esprit qui donne la vie ». La chair ne prophétise de rien. Hein, par rapport à la fois précédente où je vous ai lu ce verset, c'était écrit « La chair ne sert de rien ». Et la version anglaise dit « La chair ne prophétise de rien ». Ce qui est quand même la même chose, mais qui parle de prophétiser, qui parle de parler à la personne. La chair ne prophétise de rien, elle n'amène rien. Et les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Par le mot vie, ce que Jésus veut exprimer, c'est que ces paroles qu'il donne sont esprit. Elles ont en elles-mêmes la substance qui fait que Dieu est vivant et qui va toucher notre cœur et nous apporter la vie. Et quand quelque chose qui transporte la vie vient toucher notre cœur, c'est comme si on était transporté ailleurs et ça va rester en nous. Ça va rester, c'est encore vivant. Ce n'est pas vivant un temps, c'est vivant toujours. Et c'est tout simplement merveilleux, c'est divin, c'est de Dieu. Aussi, quand nous devons regarder aux choses, il nous faut chercher cette vie. Regarder où est la vie. Et il y avait un grand prédicateur qui disait, ne vous inquiétez pas trop de la doctrine. Pourtant, c'était quelqu'un qui était extrêmement dans le théologique. Et il disait, ne vous inquiétez pas trop de la doctrine, mais suivez la vie. Et ça doit être un de nos objectifs continus que de savoir suivre cette vie. Si la vie n'est pas là, n'y allez pas. Ne suivez pas cette direction. Mais si la vie est là, alors suivez-la. Cette direction, elle va nous donner de la crédibilité dans notre vie. Elle va donner de l'autorité dans notre vie. Elle va parler dans notre vie. Comme le dit le verset, elle va prophétiser dans notre vie. Et en même temps qu'elle prophétise, elle dit les choses et elle donne l'énergie, la puissance pour les réaliser. C'est pour ça que j'aime bien cette traduction de l'anglais. Il nous faut croire dans ce type d'attouchement de la vie. Et il nous faut aussi croître dans ce type d'attouchement de la vie. Quand Jésus dit « c'est l'Esprit qui donne la vie », le Saint-Esprit est le seul qui peut faire cela. Il n'y a rien d'autre qui puisse le faire. Il dit, la chair ne prophétise rien. La chair peut venir avec de grandes doctrines. Elle peut même venir avec des doctrines correctes. La chair peut même être très excitante. Elle peut paraître très excitante. Elle peut même transporter dans une sorte de frénésie d'émotions. Même le charismatique charnel peut être très motivant. La chair peut vous faire dire, nous devons faire ceci ou nous devons faire cela. Et même concernant le ministère charnel, quand un ministère est dans la chair, il va produire énormément d'efforts et d'énergie par lui-même pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à la vie. Mais lorsque Dieu parle, lorsque Dieu va communiquer cette vie, lorsque Dieu va prophétiser par son esprit quelque chose en nous, il nous donne et il nous communique l'énergie nécessaire pour le suivre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous exciter à gauche et à droite, mais il nous faut choisir le lieu où il y a la vie. Il y avait un des mots qui était très à la mode à un moment donné dans l'histoire de notre vie chrétienne à papa et à maman. C'est le mot enthousiaste, qui vient de in theo, en Dieu. Et la compréhension que certaines personnes ont eue était la suivante. Quand vous êtes enthousiaste, vous êtes en Dieu. Alors les prédicateurs, les chantres, les responsables disaient tous, les uns après les autres, « Allez, soyons enthousiastes, louez, levez-vous, chantez, dansez, etc. etc. » Mais il y a un problème majeur avec cette théologie. C'est que quand on est en Dieu, on va être naturellement enthousiaste. Parce que la vie de Dieu en nous nous tire vers le haut d'une façon merveilleuse. La vie de Dieu en nous nous touche et c'était extrêmement excitant. Et cela va nous rendre effectivement enthousiastes sur ce que Dieu est en train de faire. Mais on ne peut pas inverser ce précepte et dire « parce que je suis enthousiaste, alors je suis en Dieu ». Si on décide de boire de l'eau, on va être désaltéré et on n'aura plus soif. Mais si on est désaltéré, ce n'est pas forcément parce qu'on a bu de l'eau. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'un produit l'autre, mais ce n'est pas réversible. Dieu seul produit le vrai enthousiasme de Dieu. Mais l'enthousiasme ne produit pas Dieu. Et cela peut juste produire quelque chose que la chair apprécie, une certaine excitation, mais rien de plus. Et la particularité de ça, c'est que ça ne reste pas. Et certaines fois, il y a une grande excitation et un vrai semblant de réveil. Et certaines fois, on va trouver une grande excitation et un vrai réveil. Mais beaucoup d'excitation n'est pas forcément un réveil. Lorsque les gens disent « Allez, soyons enthousiastes pour Dieu !» Quand j'entends cela, ça me donne juste envie de partir, parfois. Et une des choses que tous ceux qui ont vécu le réveil disent sur le réveil, c'est qu'il y a un tel déversement de vie que... Lorsque Dieu vient dans ces moments de réveil, que Dieu commence à aller toucher les gens, il y a un tel déversement de vie que les gens finissent par dire « Mais non, mais on en a trop, on en a trop. » Ils n'en réclament plus tellement il y en a. Et c'est vrai que quand il y a ces moments très forts où Dieu vient visiter son peuple et on a pu les vivre, on est tellement plein, ça fait tellement de bien. C'est une sensation irrésistible, écrasante. On n'a pas besoin de nous demander d'être enthousiaste, on l'est naturellement. Et on ne peut pas s'empêcher d'être enthousiaste. Et la vie qui est en nous, qui est communiquée à ce moment-là, nous rend enthousiaste. Elle est naturelle, parce que c'est la substance de Dieu lui-même qui est en nous. Alors quand on dit « Allez, tout le monde, nous avons une faim de Dieu pour plus !» Mais en réalité, lorsque Dieu vient et qu'il déverse son esprit avec une telle abondance, on va tout simplement demander à ce que ça s'arrête, tellement c'est fort, tellement c'est présent, tellement c'est grand, parce qu'on est écrasé par sa présence. Et lorsqu'on est gavé, lorsqu'on a été rempli, on n'est pas en train de réclamer encore plus à manger parce qu'on est gavé par ailleurs. Et on n'a même plus envie d'avoir faim tellement on est rassasié. Et la vie de Dieu, c'est ce qu'elle produit. Et l'enthousiasme de Dieu, c'est ce qu'il produit. Donc la vraie question dans le discernement, c'est discerner ce qui est produit par la vie de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est la chose la plus importante de notre vie en tant que chrétien. Et alors que nous marchons sur le chemin de notre vie, discerner ce qui est de la vie de Dieu et ce qui est de la chair. S'il y a la vie de Dieu, elle ne nous quittera pas. C'est la caractéristique de la vie de Dieu. Elle ne nous quitte pas, elle est éternelle. Mais la chair nous abandonnera avec, au bout d'un peu de temps. C'était juste un bon moment. C'était juste un bon moment. On rentre à la maison, c'était vraiment un bon week-end, mais il n'y a plus rien, tout est parti. Tandis que quand la vie de Dieu est communiquée, ça reste. Ce que j'ai vécu à Toronto, ça reste. C'est ça la différence. Parce que la vie de Dieu a été communiquée. Et trop souvent, nous avons sacrifié la vie de Dieu au profit de réunions dites enthousiastes, des conférences enthousiastes, humainement enthousiastes. Alors que quand la vie de Dieu vient, ça reste en nous. Et ça y est accroché pour toujours. Et certains ont pensé, est-ce que ce mouvement de Dieu à Toronto peut s'exporter? Mais oui, il s'exporte. Parce que tous ceux qui ont été touchés, réellement touchés, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils vivaient encore ce qu'ils avaient, ce en quoi ils avaient été touchés. C'est resté en eux. Aussi, quand Jésus dit « l'Esprit donne la vie, la chair ne prophétise de rien », eh bien, on voit bien la différence entre ce que l'Esprit donne et lorsqu'il communique cette vie et lorsque la chair donne et que finalement, il ne reste rien à la fin. Si cela n'a rien prophétisé dans nos vies, si cela n'a rien changé dans nos vies, alors ce n'était pas la vie de Dieu. Mais si cela a changé notre vie, cela a prophétisé quelque chose en nous. Et quand la vie vient, on ressort avec une, on ressort différent de ce que l'on a reçu. De ce que l'on était avant, pardon. Et on a gagné quelque chose au travers de l'expérience que l'on a vécue. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque les gens ont vécu Toronto, mais ça a été vrai aussi par les réveils passés, ils ont vécu ce réveil et leur vie a été changée. Il y a souvent eu des ministères qui sont devenus des ministères internationaux. Ce changement lors du réveil les a littéralement affectés toute leur vie. Et puis, à un moment donné, ce mouvement de réveil a commencé à s'estomper, et puis petit à petit, de manière imperceptible, les gens ont voulu le garder et faire en sorte que ça continue. Et on comprend qu'ils aient eu envie de tenter à garder ce réveil. Et effectivement, naturellement, on l'aurait tous fait. Et les gens et les églises ont commencé à rechercher, alors que le réveil s'atténuait, ont recherché de plus en plus les manifestations du Saint-Esprit qu'ils avaient vécues, mais qu'ils étaient en train de petit à petit de perdre. Et alors que les années passaient, et que l'attente des gens était toujours aussi forte, eh ben, ils ont commencé à dériver et à faire des choses par eux-mêmes plutôt qu'au travers de la vie et de la mouvance du Saint-Esprit. Ils ont imité Dieu. Et c'est pas à nous de juger ou de critiquer les gens qui vont faire ce genre de choses, mais d'une manière imperceptible, ils vont commencer à simuler, à manufacturer, à industrialiser les manifestations du réveil. Alors ça y ressemblait, mais c'était comme le Coca-Cola like. Hein? C'est presque du Coca, mais c'est pas du Coca. Et ça demandait beaucoup d'énergie pour finalement apporter rien du tout. Et c'est ça qui a fait que dans les années après le réveil, on trouve beaucoup de responsables qui peuvent tomber en burn-out, en dépression, parce qu'ils font tellement de choses pour ressembler à ce que Dieu doit faire, pour ressembler à un mouvement de Dieu. Et en réalité, ils s'épuisent. Ils s'épuisent parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui le fait, il n'y a pas la vie dedans. Et c'est exactement ce qui est arrivé avant Toronto dans les précédents réveils, mais c'est aussi ce qui arrive à Toronto, où le mouvement du Saint-Esprit s'est écarté, et on va trouver des gens qui vont se forcer pour rire, qui vont se forcer pour trembler, qui vont se forcer pour tomber. Mais la chair ne prophétise rien. On ne peut pas forcer les choses. Et on retrouve du coup juste un écho, une coquille vide de sa substance. Mais quand l'Esprit de Dieu le produit, c'est merveilleux. Et il continuera de le faire, et il continue de le faire, et il le fera encore. C'est merveilleux. On peut être en danger d'essayer de continuer à faire des choses pour imiter Dieu. en croyant que c'est Dieu encore. La prochaine chose qui va venir s'ajouter à toutes les révélations reçues va nous amener un petit peu plus loin et va faire bouger le camp que Dieu a établi à un endroit. Ce qui nous est important, c'est de déterminer où la vie est de façon à faire bouger notre camp à cet endroit-là. Alors, ne critiquons pas ceux qui essayent d'imiter ou quoi que ce soit, hein, ne leur disons rien, parce qu'on pourrait leur faire énormément de mal. Dieu leur parlera en son temps. Mais ce qui est important, c'est que nous, on aille là où l'esprit bouge, là où il y a la vie, afin d'être tout simplement rempli de lui et que ça puisse prophétiser en nous par son esprit. Parce que la chair ne prophétise rien, mais son esprit prophétise en nous. Là où il y a la vie, ça prophétise en nous. Jésus a dit, les mots que je vous donne sont esprit et vie. Et la question pour nous est d'apprendre à voir et à rechercher cette vie, pour nous réjouir de cette vie quand elle vient. Jésus est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Hein, cette vie de Dieu en abondance. Ça ne veut pas dire que nous allons conduire une Mercedes et avoir une grande maison, mais ça veut dire que Jésus est venu pour que nous ayons la vie de Dieu lui-même, ce qui fait qu'il est vivant, ce qu'il est lui-même, sa nature à l'intérieur de notre cœur. Et quand nous avons cette vie en nous, ce que nous avons à côté ne compte pas. C'est suffisant. On a l'essentiel, on a la vie de Dieu. Et ça nous ramène à ce verset étonnant qu'on trouve dans Galates, à la fin du chapitre 3, à partir du verset 26. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et ça parle de cette vie. Ce n'est pas juste une doctrine, vous vivez en Christ. En Christ, cette vie est maintenant la vôtre. Puis il dit, Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec. » Ce verset, il est carrément extraordinaire. Parce que quand on marche ainsi avec Dieu et qu'on expérimente cette vie, être un juif ou un grec devient totalement sans importance. C'est ce que le verset nous dit. Mais alors peut-être aujourd'hui, ça ne nous touche pas tellement. Mais si on revient à l'époque de Paul, la différence entre les juifs et les grecs, particulièrement si on est juif, elle était énorme. Pour les juifs, ils se disaient le peuple de Dieu. Ils se disaient la main de Dieu, les fils d'Abraham. Et Paul va réduire cela à néant en disant, nous sommes tous fils d'Abraham par la foi. Ce n'est pas ceux qui sont de la lignée de sang qui sont les fils d'Abraham, mais ce sont ceux qui le sont par la foi. Et Paul dit ici, à cause du fait que vous êtes en Christ, à cause de ce que vous êtes des fils et des filles, que vous avez donc acquis cette vie de Dieu en vous, cela devient sans importance. Non sans importance pour moi, si vous êtes juif ou grec, mais sans importance pour vous, pour chacun de ceux qui sont soit grecs, soit juifs. Et c'est comme si Paul disait, je n'en ai vraiment rien à faire si je suis un juif ou un grec. Pour Paul de dire cela, pour chacun des disciples qui étaient des juifs en l'occurrence, de dire cela, je n'en ai rien à faire si je suis un grec ou un juif, c'est dire une chose absolument énorme. Et pourtant, c'est ce que Paul est en train de dire. Je n'en ai rien à faire d'être un juif ou un grec, c'est absolument sans importance pour moi, alors que pendant des années ça l'a été hein, pour lui, j'ai expérimenté la vie de Dieu en moi qui a littéralement effacé ce genre de considération. Alors, c'est peut-être pas trop important pour nous, mais le verset continue et il dit « Il n'y a plus ni esclave ni libre ». En d'autres mots, il dit « La vie en vous est tellement en train de transformer la vision de vous-même que vous n'allez même plus vous inquiéter de savoir si vous êtes un esclave. Cette vie en vous est tellement intense et merveilleuse qu'être un esclave ne vous fait absolument rien. » Voyons, pouvoir dire une chose comme celle-là, c'est carrément incroyable. Parce que je pense personnellement que l'esclavage est un des plus graves péchés de l'humanité. Il n'y a pas plus horrible que d'être un esclave. Vous n'avez aucun libre choix de ce que vous faites à tout moment de la journée ou de la nuit, et même de toute votre vie. Vous pouvez être marié en tant qu'esclave, mais le jour d'après, votre mari ou votre femme peut être vendu, envoyé au loin, et vous ne le reverrez plus jamais. Et le pire pour moi dans cela, c'est que un esclave pouvait même avoir des enfants, mais ils sont nés esclaves et ils peuvent être vendus et emmenés loin de vous. L'horreur, c'est de ne pas être libre d'un seul de ses choix dans toute sa vie. C'est tout simplement terrifiant. Naître en tant qu'esclave est certainement la pire des choses qu'on pouvait imaginer arriver dans une vie. Et Paul est en train de dire que quand on a la vie de fils en nous, cette vie de Dieu en nous qui touche notre vie, que lorsqu'on expérimente cette vie, eh ben vous ne prenez plus qu'à de votre situation. Être un esclave ou un homme libre ne fait absolument aucune différence pour vous. C'est énorme. Mais il continue, il ne s'arrête pas là. Il va de pire en pire. Il dit, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. En d'autres mots, ne vous inquiétez même pas de ce que vous êtes un homme ou une femme. Et alors, ce verset, il explose au plus loin possible toute forme de différenciation entre le ministère de l'homme et le ministère de la femme. S'il devait encore y avoir une différence. Si un homme chrétien ne prend pas cas de savoir s'il est un homme ou une femme, comment peut-il différencier le ministère de l'homme et de la femme? Si votre pensée est qu'une femme ne peut pas être un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète ou un enseignant, il nous faut revenir à l'Écriture et lire qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est pourquoi tous les ministères et les dons du Saint-Esprit sont pour chacun d'entre nous sans absolument aucune différence. En fait, nous ne devrions jamais penser sur le fait que nous sommes un homme ou une femme dans notre chemin spirituel. Car ce qu'il dit dans cette relation de fils et de fille avec le Père, c'est qu'être un homme ou une femme n'a strictement aucune importance. Paul nous dit que quand cette vie nous touche, cette vie nous amène dans une relation de fils et de fille du Père. Mais l'essence, la source véritable de cela, la substance véritable de ce qui est en train de se passer, c'est que la vie de ce qui fait que Dieu est vivant vient en nous et fait de nous des enfants de Dieu, fait de nous des chrétiens, la future épouse de Christ. Cette vie en nous transforme en tout ce qui est spirituel. Et Paul est en train de nous dire que quand cette vie nous pénètre totalement, vous ne pouvez même plus savoir si vous êtes un homme ou une femme. Vous ne vous inquiétez même plus de ces choses-là. Notre identité n'est plus dans le fait d'être un homme, notre identité n'est plus dans le fait d'être une femme, mais notre identité est simplement d'être des enfants de Dieu. Cette vie que Dieu veut déposer en nous et que Dieu dépose en nous, quand cette vie nous touche, que cela nous touche dans tous les domaines, cette vie efface toutes les questions. Une des raisons pour laquelle nous avons difficulté à nous centrer sur Israël dans ces jours, c'est parce que Paul dit « En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec ». En fait, en Christ, les juifs et les grecs sont réunis dans le Père. En Christ, il n'y a pas de futur pour Israël en dehors de Christ. Quelquefois, on a l'impression que lorsque les gens parlent de Dieu, Dieu a un plan pour Israël qui est séparé de Christ. Mais ça n'arrivera jamais. Toutes choses ont été réunies en lui, en Christ. Quand Paul dit ces mots, il met l'accent sur l'importance de cette question de la vie spirituelle, la vie de Dieu. Quand la vie de Dieu prend place en nous, et c'est un long chemin pour que nous laissions toute la place, mais quand la vie de Dieu nous y amène, cela n'a plus aucune importance pour nous d'être esclaves ou libres. Cela n'a plus aucune importance pour nous d'être en prison ou d'être l'un des gardes. Cela n'a plus aucune importance pour nous d'être riche ou pauvre. Cela n'a plus aucune importance pour nous d'être un homme ou une femme. Parce que la vie de Christ, qui est la vie du Père, communiquée par le Saint-Esprit, produit un tel impact qu'elle peut submerger toutes ces questions à l'intérieur de nos vies. Et on ne peut pas résoudre ça en un jour dans nos vies, mais nous y sommes en chemin. Jésus est le chemin qui mène au Père. Et c'est ce qui est important pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre à déterminer ce qu'est vraiment la vie de Dieu, ce qu'est vraiment la chair, le ministère qui vient aussi de la chair. On ne sera jamais au bénéfice d'un ministère qui vient juste de la chair. Il va dire des choses qui vont être extrêmement jolies, parfois même spirituelles. Ça peut paraître extrêmement enthousiasmant, extrêmement zélé, plein de choses. Ça peut paraître très impressionnant, mais au fond, ça ne prophétisera rien à l'intérieur de nos vies, ça ne nous donnera pas la vie. Et en fait, ça va ressembler aux deux arbres. Vous vous rappelez, un des deux arbres est à propos de la connaissance du bien et du mal, de ce qui est bien et mal. Et il est différent de l'arbre de vie. Et cet arbre qui est de la connaissance du bien et du mal, c'est la sagesse de Satan. C'est le verset qui le dit. C'est la sagesse corrompue de Satan. Satan voulait être comme le plus grand. Il voulait s'asseoir sur le devant de l'assemblée. Il voulait être à la tête. Il voulait être celui qui est important. Il voulait être l'autorité. Le ministère qui vient de ce qui est du bien et du mal reproduit exactement la même chose. C'est la même sagesse. Ils veulent la première place, ils veulent la renommée, ils veulent l'importance, ils ont le sens de l'honneur, ils veulent être honorés, ils veulent se tenir dans une place d'honneur. Mais la plupart de ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de se glorifier eux-mêmes et leur propre ministère. Ils vont vous dire que vous devez être obéissant à leur autorité spirituelle, car c'est ce que veut ce genre de ministère. Mais ce genre de ministère ne va absolument rien prophétiser en nous. Il faut apprendre à discerner ce qui est vraiment de l'esprit de vie et ce qui est de la vie de Dieu lui-même. Et Jésus est un donneur de vie. Le dernier passage que je veux partager avec vous, c'est dans 1 Corinthiens 15, où c'est écrit, 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Jésus. Ce passage nous dit que Adam est devenu une âme vivante, mais Jésus est devenu un donneur de vie. Adam est devenu une âme vivante, mais Jésus est devenu un donneur, un communicateur de vie. À la place de juste devenir vivant, il va, comme Adam, il va devenir celui qui rend vivant. Au verset 47, il est écrit « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel ». Jésus est celui qui donne un esprit de vie. Il donne cette vie, il communique cette vie. La plus importante chose à propos de Jésus, c'est que quand les gens le touchent, le voient, ou sont touchés de quelque façon personnelle, ils sont touchés par cette vie qui est en lui. Et cette vie est exprimée de différentes façons, par ses mots, par ses miracles, par ses yeux, par son sourire, par son toucher, mais par la nature même de Dieu dans son regard, cet amour qu'il communique. Jésus donne la vie aux gens, il communique la vie. Et il y a des moments où on est en prière et la vie de Dieu vient nous toucher et c'est la chose la plus précieuse qui nous arrive. Et il faut aller là où nous pouvons vivre, c'est toucher, aller jusqu'au prochain. Au prochain moment où on va vivre, c'est toucher, rechercher ces moments où il y a une communication de vie. Lorsque quelqu'un prêche et que sa prédication vous communique quelque chose d'intellectuel en vous, ce n'est pas suffisant. Ça peut être bon, ça peut être vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il est important que vous ayez la vie qui vient avec les mots, que ce que vous entendez soit bien, mais en même temps que ce soit une communication de vie qui vienne. Parce que quand la vie nous touche, alors on devient différent. Ça prophétise quelque chose sur nous. On ressort différent. Et moi, je veux faire partie de ceux qui ont une vraie vie. Je peux dire que quand on traverse des situations qui peuvent parfois être diaboliques et que tout va de travers, la seule chose qui peut nous ramener, c'est la vie. J'ai vu certaines personnes qui ont vécu des choses très difficiles, je dirais même diaboliques. Et pour autant, elles ont été totalement brisées en petits morceaux. Mais la seule chose qui va les ramener, c'est la vie de Dieu lui-même en elle. Parce que quand la vie touche et qu'il pose sa vie en nous, cette vie peut nous transformer et nous faire sortir des situations diaboliques. Exactement de la même façon quand Jésus a rempli cette vie et qu'il est passé dans l'enfer. L'enfer n'a pas pu le retenir parce qu'il était rempli de l'esprit de vie. Et quand la vie nous touche, alors on devient nous-mêmes un communicateur de vie, un donneur de vie. Quand la vie de Dieu est déposée en nous, Alors, on va communiquer la vie autour de nous. Il y aura des souffrances, et il y en a des souffrances dans nos vies. Hein, on traverse des trucs difficiles, même actuellement. Mais ces souffrances dans nos vies, si on les donne à Dieu, il va nous donner plus de vie que si on ne les avait jamais eues. Et cette vie va devenir une source de vie pour beaucoup d'autres. Celui qui a vécu des difficultés particulières, Dieu va lui communiquer plus de vie. On le voit dans David, dont on peut penser qu'il avait, en tous les cas, pas de famille. C'était pas sa famille qui l'a accueilli, qu'il était peut-être adopté par son père, Isaïe. Mais il est devenu lui-même celui qui a le plus parlé d'un Dieu comme père. Il a reçu de Dieu une communication de vie toute particulière qu'il va pouvoir mettre à profit pour les autres. Et il en est de même pour chacun de nous. Quand nous vivons des difficultés et que nous recevons cette vie, alors nous pouvons devenir nous-mêmes des communicateurs de vie. Et il peut nous mettre dans une église où la source de vie, où je devrais même dire le principal ministère de l'église, n'est pas une source de vie. Et ça peut arriver. Mais nous sommes dans une situation à ce moment-là où le principal ministère de l'Église ne nous nourrit pas parce qu'il n'est pas ancré et qu'il ne communique pas la vie. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous sommes séparés, nous, de la source de vie. Il nous faut juste apprendre à trouver cette vie par et pour soi-même. Et je pense que dans notre vie, il nous faut rechercher, dans notre parcours, voilà, de vie, il nous faut rechercher la vie. Il nous faut suivre la vie. Il nous faut laisser la vie de Dieu nous nourrir. Il faut laisser Dieu nous communiquer cette vie plus et plus encore, au travers des difficultés qu'on rencontre et au travers des bénédictions qu'on rencontre. Cette vie nous parle de ce cœur de fils et de filles. Cette vie nous apporte l'amour du Père. Cette vie nous ouvre le cœur. C'est le point essentiel de la vie chrétienne. C'est de connaître cette vie de Dieu, de la suivre, de la recevoir, pour être capable de la communiquer autour de nous. Et c'est disponible pour chacun de nous. Il n'y a pas de gens qui sont écartés de ça. Et on peut dire qu'on l'a déjà tous goûté, parce que si on ne l'avait pas goûté, on ne serait pas là à essayer de parler de Dieu, parce que quand on est né de nouveau, on l'a forcément touché déjà. Et c'est certainement souvent et bien souvent la première fois qu'on le touche, mais il nous faut rechercher encore et encore et encore cette vie, parce qu'il y a toujours plus à vivre avec lui. Certains pensent que quand on est né de nouveau, eh ben, c'était super, et puis on s'arrête là. Mais en fait, il nous faut rechercher cette vie tout le temps. On a commencé à la rencontrer. Et on a été sauvés, mais il nous faut continuer à suivre là où est la vie pour aller là où ça nous remplit et où ça prophétise sur nous. Et c'est ça qui va nous rendre matures sur le long du chemin. Alors, je ne sais pas comment expliquer mieux que cela, mais le Saint-Esprit, c'est comme cette avenue qui nous communique cette vie et qui nous met en relation avec cette vie. Mais on peut laisser cette vie venir discerner en nous la réalité. Hein. C'est là où il y a la vie, on va. Là où il n'y a pas la vie, on va pas. C'est ça le discernement des esprits. C'est pas à propos de discerner les esprits humains, ton esprit est rebelle, c'est mal, t'es une Jézabel, t'es ci, t'es là. Non. C'est de discerner ce qui est de l'esprit de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce qui vient de l'Esprit de Dieu et qui communique la vie et ce qui ne l'est pas. C'est certainement la chose la plus importante. Et à chaque fois qu'on entend quelqu'un parler ou qu'on traverse des situations ou qu'on écoute quelqu'un, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a la vie? Est-ce que cette personne communique la vie aux autres? C'est la vie qui transporte la nature même de Dieu, qui transporte son amour, qui transporte les caractéristiques de Dieu, qui est la chose la plus importante à rechercher. Voilà. Et peut-être on pourrait prier chez